Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Votre invité ce midi, c'est Christopher Gigès, membre du gouvernement. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous l'avez remarqué, comme tout le monde, une ambiance un petit peu tendue actuellement en Nouvelle-Calédonie. Mais en fait, les membres non indépendantistes du gouvernement se sont illustrés eux aussi dans ces tensions, puisque dès le 20 mars dernier, vous aviez quitté la séance hebdomadaire du gouvernement pour protester à l'époque contre les textes fiscaux et contre le manque de collégialité du gouvernement. On en est où aujourd'hui? Ça va mieux?
Ça va mieux. Donc il y a des raisons d'espérer dans un certain nombre de choses dans la période actuelle, comme vous l'avez dit, qui est un peu complexe. On avait quitté la séance du gouvernement parce qu'on ne souhaitait pas qu'il y ait un matraquage fiscal supplémentaire. On ne souhaitait pas qu'il y ait la TGC qui passe avant la signature du pacte nickel, puisque la réforme de la TGC était là pour contribuer pour la part Nouvelle-Calédonie au pacte nickel. Donc on avait quand même raison à cette époque. Et il y avait un certain nombre d'augmentations qui étaient prévues, plus Gilbert Thuyénon qui nous avait indiqué qu'on n'avait pas besoin de nous au gouvernement. Je crois que chacun a mis un petit peu d'eau dans son vin. Je crois que le gouvernement aujourd'hui est un espace où on peut se parler. Donc moi je salue la prise de parole du président du gouvernement, Louis Mapou,
sur
le pacte nickel, qui a fait preuve de beaucoup de responsabilité, de beaucoup de courage. Et ça a permis, je crois, que cette déclaration, que chacun mette un petit peu d'eau dans son vin. On a travaillé en début de semaine sur un plan de relance économique. On se revoit encore cet après-midi sur un plan de relance économique.
Et là, de manière collégiale.
De manière collégiale, avec l'ensemble des membres. Et ce qui est rassurant au final, c'est qu'on voit qu'il y a certaines idées qui convergent de comment relancer l'économie calédonienne. Donc tout n'est pas encore au beau fixe, je ne suis pas un bisounours, mais au moins on se parle, et je crois que ce qui est important, c'est se parler pour trouver des solutions.
Comme quoi, claquer la porte, ça peut aussi avoir des bonnes conséquences.
Oui, enfin, claquer la porte et de se faire respecter, c'est important, mais je crois que les mots n'ont pas dépassé notre pensée au cours de cette séance du gouvernement, et ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, c'est pas facile, ça, on a eu des mots assez forts les uns et les autres, mais comme pour le reste de la Nouvelle-Calédonie, peut-être que le terme n'est pas bon, mais on est condamné à travailler ensemble. Donc je crois que les défis sont assez importants pour qu'on arrive à trouver des consensus sur un certain nombre de sujets. Quand on parle d'économie et d'emploi, qu'on soit indépendantiste ou non indépendantiste, le sujet est le même et il faut retrouver des solutions pour rassurer les Calédoniens. Quand on parle de pouvoir d'achat, c'est tous les Calédoniens, peu importe leur sensibilité, qui sont aujourd'hui touchés par cette crise du pouvoir d'achat. Donc il faut que cette réponse elle soit commune, il faut qu'on apporte des réponses qui correspondent à l'ensemble des électorats, et c'est comme ça qu'on arrivera à faire avancer la Calédonie.
Alors vous faisiez allusion, le gouvernement est un peu le point de mire ces derniers jours avec le dossier du pacte nickel. Pourquoi le président du gouvernement ne l'a-t-il pas signé? Est-ce qu'il a eu raison, selon vous, de demander une habilitation du Congrès, puisque c'est un peu ce qui fait que les choses sont enrayées aujourd'hui?
Oui, moi j'étais opposé à ce qu'on demande l'habilitation du Congrès, parce qu'au Congrès aujourd'hui, il y a des gens, et notamment Philippe Gomez, qui font de la grande démagogie pour pouvoir réexister politiquement. Ça a été fait. Aujourd'hui, Louis Mapou a indiqué au Congrès que si le Congrès ne devait pas l'habiliter pour signer le pacte, il le signerait tout seul, et que certains membres du Congrès pourraient déposer une motion de censure s'ils n'étaient pas d'accord avec ça. Je crois que Louis Mapou, mais je ne suis pas le porte-parole de Louis Mapou, attend que le processus du Congrès soit terminé. Je crois qu'il y a une séance publique la semaine prochaine, une dernière fois, pour décider est-ce qu'il souhaite habiliter le président du Congrès ou du gouvernement ou non. Mais il appartient maintenant à Louis Mapou de s'exprimer. Mais rien que de faire la déclaration qu'il a pu faire la semaine dernière en mettant chacun devant ses responsabilités, c'est-à-dire que le pacte nickel, c'est important de le rappeler, l'idée de pacte, c'est que chacun a des responsabilités, chacun a des engagements. La Nouvelle-Calédonie prend des engagements en matière d'exportation de minerais, prend des responsabilités en matière de subvention à l'énergie cofinancée avec l'État. L'État conditionne plusieurs apports de fonds exceptionnels pour sauver les usines, et les métallurgiques active un certain nombre de mesures d'amélioration de la compétitivité. Donc je crois que ce pacte nickel, il est, comme l'a dit le président du gouvernement, une mesure de court terme et de moyen terme. Ça ne nous empêche pas de travailler sur la stratégie nickel à plus long terme, ce qu'il faudra faire. Donc je crois qu'il faut que la raison revienne sur ce sujet.
Oui, vous le disiez, Philippe Gomès est un opposant farouche à ce pacte nickel. Lui, il affirme que les opérateurs ne participent pas à l'effort, et puis il reproche à l'État de vouloir faire participer la Calédonie à hauteur de 8 milliards alors qu'elle n'en a pas les moyens aujourd'hui. Est-ce que ce sont des arguments qui doivent être pris en compte, qui peuvent effectivement amener à hésiter à signer ce pacte ?
Enfin, vous savez, moi j'ai fait partie des membres du gouvernement qui ont participé à la négociation du pacte. On était opposés au début au fait que Enfin, on est toujours opposés. Hein. Enfin, c'est toujours mieux de ne pas pouvoir payer 8 milliards supplémentaires pour la partie énergie. Mais au début, on avait du 1 pour 1. C'est-à-dire que l'État a dit, on met 12 milliards pour la subvention sur l'énergie et la Nouvelle-Calédonie met 12 milliards. Ils ont fini par lâcher sur 8 milliards et qu'on puisse le financer aussi par des traites qu'on ne paierait pas à l'État. La question est de savoir, est-ce qu'on a les moyens de ne pas signer le pacte ? Est-ce qu'on a les moyens du fait que les usines continuent à fonctionner sans le pacte ? La réponse est non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas le pacte, les usines vont s'arrêter. Les usines s'arrêteront parce que l'État ne mettront pas les tranches conditionnelles de prêts supplémentaires pour financer les usines à hauteur d'un milliard d'euros. 1 milliard d'euros, c'est-à-dire 120 milliards CFP, pour faire financer les usines calédoniennes. Et je pense que dans le contexte actuel, et je pense que chacun voit ce qui se passe en métropole, où la France est en grande difficulté sur le plan budgétaire, on risque de dépasser le déficit prévu et réglementaire. Bruno Le Maire cherche 20 milliards. Et 20 milliards d'euros, et il en perd déjà un sur la Nouvelle-Calédonie. Il en perd déjà un, rien que sur la Nouvelle-Calédonie, et 270 000 habitants dans le Pacifique. C'est pour ça on l'a vu encore sur la question des garanties qui ont touché les mines dans la province nord, et on y reviendra, mais la France est à nos côtés. La France est à nos côtés pour nous aider à ce que la Nouvelle-Calédonie passe le cap de cette crise nickel, et ça, je pense que ça peut rassurer tout le monde. Le pacte n'est pas encore signé, le pacte viendra être signé à un moment, mais la France est à nos côtés pour donner encore de la garantie à nos emplois.
Alors, vous n'êtes pas le porte-parole de Louis Mapou, on a bien entendu, mais quand même, pourquoi est-ce qu'il ne le signe pas ? Vous nous dites qu'il va attendre la fin du processus au Congrès, mais les élus ont demandé à la création d'une commission spéciale sur la filière nickel. On a l'impression qu'ils veulent enterrer le sujet, en fait.
Oui, enfin, on voit qu'au Congrès, il y a un certain nombre d'élus qui veulent enterrer le sujet. Moi, je vous dis, Louis Mapou tiendra son calendrier. Moi, j'espère qu'il le signe le plus rapidement possible. C'est important, sinon on va avoir des usines qui ferment, des emplois qui s'arrêtent. Mais on a aujourd'hui un pyromane au Congrès. Enfin, je citais tout à l'heure Philippe Gomès. Philippe Gomès, il a été très lourdement sanctionné aux dernières élections provinciales. Il l'a mal vécu, on dirait. C'est-à-dire qu'il a un ego qui est quand même important, ce monsieur. Et je crois qu'il n'a jamais pardonné aux Calédoniens de l'avoir sanctionné de manière aussi lourde aux dernières élections. Et donc, aujourd'hui, il veut se venger. Certains disent aujourd'hui que Philippe Gomès est devenu indépendantiste. Moi, je considère qu'il a toujours eu un fond de revanche avec la France. Mais surtout, il ne cherche même pas une question d'indépendance ou de pas indépendance. Je crois qu'il veut vivre en Gomésie. C'est-à-dire que avoir tous les pouvoirs, de tout décider. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas... Il a fait un post qui, sur les réseaux sociaux, où il dit que Gilbert Thuyénon et Louis Mapou ont le syndrome de Stockholm. Enfin, le syndrome de Stockholm, c'est lui qui l'a depuis des années, où il s'est vendu aux indépendantistes, et il essaye de leur plaire en permanence. Donc je crois qu'il faut que chacun retrouve un petit peu la raison, qu'ils mettent leurs égos de côté, qu'on signe le pacte le plus rapidement possible. Moi, j'espère que Louis Mapou le signera dès la semaine prochaine. Mais là, ça lui revient. Il est président du gouvernement. Au moment où il nous demandera au gouvernement de l'habiliter à signer, on signera avec les deux mains.
Même s'il avait dit que s'il était désavoué par les élus du Congrès, il en tirerait toutes les conséquences. Alors, tout le monde s'est posé la question, qu'est-ce que ça veut dire ? Démission, pas démotion ? Ce serait plutôt la théorie, la stratégie de la motion de censure qui est dans les esprits. Hein.
Moi, de ce que j'ai entendu de sa part, c'est de signer le pacte et que si il y en a qui ne sont pas contents, bah, qui déposent une motion de censure. Enfin, en tout cas, Dieu sait qu'on n'a pas les mêmes opinions politiques avec Louis Mapou et encore moins avec Gilbert Thuyénon, mais les deux poussent pour la signature du pacte nickel, et c'est faire preuve de responsabilité. Ça ne met en rien en danger les prérogatives de la Nouvelle-Calédonie. Au contraire, c'est l'État vient à nos côtés pour nous aider à assumer nos prérogatives. Ils ne demandent absolument rien. Et dans le contexte actuel de la métropole, je crois que ça montre encore une fois que la France est à nos côtés. C'est une bonne chose.
Alors, le dossier nickel, c'est aussi, et vous le disiez à l'épisode, des garanties financières de la SLN et de la suspension de ses autorisations d'exploitation par le président de la province Nord. On pensait que le problème avait été réglé. On apprend ce matin que Paul Néotine demande maintenant une prolongation encore de ces garanties financières. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que vous l'interprétez? Parce qu'en attendant, tous les sites miniers de la province Nord sont fermés depuis hier matin.
La chose factuelle, et c'est pas nouveau, et je ne vais pas rentrer dans une polémique qui mettrait en danger la SLN. Paul Néotine veut la peau de la SLN depuis des années. Il veut récupérer les massifs de la SLN depuis des années. Donc là, il a trouvé un moyen avec la question des garanties. Sur le fait que Eramet et SLN aient répondu qu'il fallait que 2 mois de garantie pour les provinces sud et nord, les provinces sud et nord ont eu raison de demander qu'il fallait 12 mois conformément au code minier. Mais là, on voit qu'on est dans une dérive du président de la province nord qui ne respecte même plus le code minier puisque il va au-delà des 12 mois en demandant 4 ans de garantie. Je crois que la SLN a répondu de manière... à apaiser les choses en disant qu'ils feraient de leur possible pour répondre aux exigences de la province Nord, pour préserver les emplois, pour préserver leur outil industriel. Mais je crois que c'est pas ma déclaration ou un communiqué des loyalistes ou un communiqué des non-indépendantistes de manière générale qui feront changer d'avis le président de la province Nord. Il a même refusé de voir Emmanuel Macron. Donc quand il est venu en Nouvelle-Calédonie, je pense qu'il est parti dans un espèce de délire pour essayer de fermer la SLN et qu'il ne soit pas désavoué avec la fermeture uniquement de KNS, la mise en sommeil de KNS. La meilleure réponse, je crois, si je peux m'exprimer comme ça, c'est qu'on aura des élections en fin d'année et chaque employé de la SLN et chaque membre de la famille d'employés de la SLN ou chaque sous-traitant de la SLN considère que quand ils voteront en province Nord, quand ils verront le bulletin Paul Néotine, c'est un bulletin qui fermera qui mettra un terme à leur emploi. Donc je crois qu'il faudra faire un choix à ce moment-là.
En attendant, dans l'épisode intermédiaire, quand il fallait des garanties financières sur un an, on a remarqué une réaction extrêmement rapide d'Eramet et de l'État. Alors l'État s'en est mêlé très directement de la solution du problème.
Oui, et c'est une très bonne chose et c'est rassurant. Comme sur la question du pacte nickel, l'État est à nos côtés, l'État s'engage, l'État ne faiblit pas sur la Nouvelle-Calédonie, l'État ne nous demande aucune contrepartie à l'intervention pour préserver les emplois, et je crois que ça peut, dans le contexte actuel, rassurer les Calédoniens. C'est-à-dire qu'on a un État qui ne faiblit pas. Je discutais avec des personnes qui ont connu la période un petit peu trouble de la Nouvelle-Calédonie où on avait un État qui était faible et qui était contre les non-indépendantistes. Je crois que l'État aujourd'hui ne faiblit sur absolument rien sur l'engagement pour la Nouvelle-Calédonie dans un contexte qui est, et je le rappelle, extrêmement complexe en métropole. Là, on n'a jamais vu ça, une intervention aussi rapide de l'État français pour débloquer des garanties pour permettre la survie de la SLN. Mais Ils ne l'auraient pas fait que pour la SLN, ils l'ont dit. On le fait pour KNS, on le fait pour Prony Ressources, on est là pour donner un avenir à la situation minière en Nouvelle-Calédonie. Et je crois que ça, on peut s'en féliciter, parce que c'est un engagement du président de la République lui-même, depuis maintenant des années, pour la Nouvelle-Calédonie. Et peu importe les sensibilités, les gens qui sont sur les sites miniers en province Nord et en province Sud, c'est pas des gens qui ont leur carte chez les loyalistes. Il y en a beaucoup qui ont voté oui à l'indépendance, mais juste, on a un État français qui est là, qui nous accompagne et qui nous soutient pour avoir une filière vraiment stratégique pour la Nouvelle-Calédonie.
En attendant, il va falloir mettre, le gouvernement a commencé à se penser dessus, un dispositif d'aide pour le chômage partiel dans le secteur du nickel. Et on sait que pour KNS, ça pourrait être assez rapide. La Calédonie a les moyens, aujourd'hui encore, de mettre en place ce genre de système. On se retrouve un peu dans une situation qui ressemble à celle de la crise Covid, quoi.
Oui, pour un mois, oui. On a les moyens pour un mois de financer du chômage partiel, et encore. Donc, c'est ça qu'il faut que chacun comprenne bien. La signature du pacte nickel, c'est pas qu'une signature qui va faire une subvention à l'énergie. Ça permet de débloquer beaucoup de choses. Ça permet de débloquer des fonds complémentaires pour la question du chômage partiel. potentiel. Ça permet de trouver des repreneurs supplémentaires pour les usines du Sud et du Nord, et donc de mettre un terme au dispositif de chômage partiel. Ça nous permet de nous projeter et de voir les choses de manière un peu plus positive. Donc les gens qui disent que c'est une prise de souveraineté, que l'État met la main sur la Nouvelle-Calédonie, non, l'État est juste à nos côtés pour qu'on puisse retrouver des repreneurs et pour qu'on puisse arrêter le dispositif de chômage partiel.
Alors, autre sujet d'inquiétude, hein, il y en a pas mal, l'actualité n'est pas très souriante ces derniers temps, la situation des NERCAL. Alors, c'est un dossier que vous connaissez bien. Est-ce que le gouvernement a eu raison de retirer la taxe d'équipe d'arrivée qui devait venir en aide justement à NERCAL ?
Oui, le gouvernement a eu raison. Enfin, moi, je m'étais exprimé contre le vote de la tête à l'époque. Aller prendre dans la poche des Calédoniens autant d'argent sur la partie du carburant avec un dispositif qui était assez unique, qui en fait empêchait l'essence de baisser en Nouvelle-Calédonie, c'était une folie furieuse. Ensuite, que NERCAL ait des difficultés, oui, il faut prendre des mesures, il faut accompagner NERCAL, mais ce que j'ai toujours dit, enfin, je sais que les salariés d'Enercal ne sont pas ravis quand je dis ça, mais il faut, quand on demande des efforts aux Calédoniens, que ce soit sur une augmentation du prix du carburant avec des taxes ou une augmentation du prix de l'électricité, que Enercal aussi fasse des économies en interne, ne se verse pas 177 millions d'intéressements. Ça ne va pas régler tout le problème, mais au moins de manière symbolique, on dit qu'il n'y a pas eu des versements de primes supplémentaires. L'augmentation du prix de l'électricité, on y passera. Et il faudra y aller à un moment pour permettre de revenir à une situation normale. Mais ça s'accompagne par des mesures, notamment de maîtrise de l'énergie, parce que la facture d'électricité à la fin du mois, c'est deux choses. C'est le prix et la quantité qu'on a consommée. Et donc, il faut qu'on mette en place en amont des mesures qui permettent aux Calédoniens de baisser leur facture énergétique et que parallèlement, peut-être, on puisse avoir un prix de l'énergie qui est un peu... Qui pourrait être un peu comme l'essence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fonctionne par arrêté du gouvernement et on voit les difficultés du gouvernement à prendre cette décision d'avoir un prix de l'électricité qui varie en fonction des différents cours permettra d'améliorer la situation de la société. Mais il faut que Enercal, avant, fasse des efforts, et notamment sur la partie de son fonctionnement et de son train de vie.
Mais là, comme souvent dans les dossiers calédoniens, il y a urgence. Enercal a besoin de trésorerie d'ici les deux mois qui viennent.
Oui, on fait
comment ?
On fait déjà, on débloque la ligne de trésorerie qui est prévue par la BCI. Et ça passe par quelques mesures. Je vous l'ai dit sur la question du prix de l'électricité, c'est des choses qu'on peut regarder, mais qu'on doit accompagner les Calédoniens pour pas que ça pèse sur la facture d'électricité de gens qui ont déjà perdu leur emploi aujourd'hui. L'État a porté une première solution, c'est-à-dire que la première partie on revient au pacte nickel, mais la première tranche de l'aide à premier ressources à PRNC qui a permis de payer la facture que PRNC devait à Enercal, c'est 530 millions tout de suite dans les poches d'Enercal. Donc aidons les sociétés minières à payer leur facture à Enercal, relançons l'économie et réglons la question du RUAM, parce que les hôpitaux doivent 1 milliard à Enercal et ça permettra d'apporter une solution également. Mais la réponse avec Enercal, elle n'est pas juste sur la société même ou d'augmenter le prix du carburant ou le prix de l'électricité. C'est de permettre de relancer l'économie de manière générale et que chacun paye sa facture.
Alors ça a été un peu le fantasme la semaine dernière. Des coupures de courant éventuellement, pour ne pas parler de blackout quand même, vous pensez qu'on va pouvoir éviter cette situation, qu'Enercal va être à même d'assurer mission ?
On va faire le nécessaire pour qu'Enercal assure sa mission. Il y aura des choses qui seront prévues au budget supplémentaire de la Nouvelle-Calédonie pour aider Enercal, pour accompagner Enercal. Il y a eu des propositions de mon groupe politique au Congrès pour affecter peut-être une partie de la TGC à Enercal pour que la situation soit améliorée. Mais il est hors de question qu'il y ait des coupures aux Calédoniens. Mais on ne peut pas avoir une réforme qui touche tout le monde et qui tape sur le carburant, sur le prix de l'électricité, sur les communes qui sont des collectivités de proximité et qui agissent au plus près des Calédoniens et notamment des CCAS. Et donc, je pense qu'il faut juste s'apaiser, regarder les solutions qui sont sur la table et de le faire sans idéologie.
Ah, dans ce climat économique particulièrement tendu, vous nous dites que le gouvernement prépare actuellement un plan de relance de l'économie. On a envie de dire que c'est indispensable, mais est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a une marge financière suffisante pour aujourd'hui lancer un certain nombre de projets et relancer l'économie ?
Il y a plusieurs choses. Enfin, déjà, on avait communiqué avec mes autres collègues du gouvernement, donc Isabelle Chamorreau, Thierry Santa, Yoann Lecourieux, pour demander un pacte de croissance, et le pacte de croissance passait par un certain nombre de choses. Déjà, la première des choses, c'était la signature du pacte nickel. Donc ça, c'est une preuve. S'il n'y a pas de signature du pacte nickel, il n'y aura pas de relance économique, parce que les usines seront dans une situation qui ne permettra pas de la relance économique. Mais par contre, il y a d'autres choses à faire. Déjà, le fait, et je suis peut-être naïf en disant ça, hein, mais de montrer que dans une collectivité de la Nouvelle-Calédonie, des non-indépendantistes et des indépendantistes travaillent ensemble sur des mesures au service des Calédoniens, ça peut apporter de la confiance. Ça peut montrer qu'on arrive à avancer ensemble sur différentes mesures. Et on voit que la confiance est importante dans une économie et surtout dans la période tendue qu'on connaît actuellement. Ensuite, il y a des mesures qui ne nécessitent pas forcément des financements. C'est juste de la simplification administrative sur un certain nombre de projets. Je regarde sur des projets de défiscalisation privée qui sont aujourd'hui déposés au gouvernement, qui sont bloqués par lenteur administrative, mais qui sont là dans les tuyaux et qui ont juste besoin d'être débloqués. On a eu des propositions du monde économique pour augmenter les salaires. Augmenter les salaires, ça passe par une diminution des charges sociales, compensé peut-être par une hausse d'un point de la TGC, mais ça redonne du pouvoir d'achat, ça relance la consommation, et je crois qu'on peut s'accorder sur tout ça. Mais je reviens sur et le pacte nickel, et c'est un peu l'alpha et l'oméga de la situation. Si l'État français voit qu'on arrive à signer le pacte nickel, il y aura des fonds qui seront débloqués sur la relance économique derrière, parce qu'on sera crédible vis-à-vis de l'État sur les engagements qu'on prend. On a d'autres mesures, enfin, on a beaucoup d'épargne en Nouvelle-Calédonie qui sont soit bloquées ici, soit qui sont parties pour des raisons, je le disais, de confiance. Il faut faire revenir cette épargne. Et cette épargne, qui pourrait être investie plutôt que dans des assurances-vie, dans des projets structurants pour la Nouvelle-Calédonie, en contrepartie d'avantages fiscaux. On peut aussi demander une garantie de l'État pour nous accompagner sur un grand fonds, un grand emprunt et de mobiliser l'épargne des Calédoniens sur ces projets structurants qui participeraient à une diversification de l'économie. Mais il y a des solutions. Juste, il faut qu'on se parle, qu'on se dise, ben non, là, on n'est pas d'accord, donc il n'y a pas de consensus sur ça, donc on ne le fait pas. Mais par contre, on peut trouver un consensus sur autre chose. Mobiliser l'épargne des Calédoniens en contrepartie d'un avantage fiscal avec une garantie de l'État, qu'on soit indépendantiste ou non indépendantiste, je pense qu'on peut travailler là-dessus.
Oui, mais en toile de fond de tout ça, de cette situation économique dont on parle, il y a évidemment les tensions politiques également, les discussions sur l'avenir institutionnel qui n'avance pas beaucoup, et puis le projet de loi constitutionnelle pour la modification du corps électoral, qui l'a fait carrément débat, qui est extrêmement clivant. Vous êtes confiant? Vous pensez que, on l'a dit, le dégel, c'est une exigence juridique et politique, mais...
Morale aussi.
Est-ce qu'il va être adapté? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout du processus?
Vous savez, moi, je suis optimiste à la base. Enfin... la situation est tendue en Nouvelle-Calédonie, la situation est complexe en Nouvelle-Calédonie. Enfin, il faut regarder juste de où on part. On a eu un premier référendum, les Calédoniens ont voté pour rester français. Un deuxième référendum, les Calédoniens ont voté pour rester français. Un troisième référendum, au cas où on n'était pas très sûr, les deux derniers demandés par les indépendantistes, c'est toujours important de le rappeler, où on a décidé de rester français. Juste après, on a eu un président de la République qui, juste après le troisième référendum, a dit « La Nouvelle-Calédonie a fait le choix de rester française et donc le restera ». Après, on a eu le processus qui a été engagé, on a eu moi j'étais partisan pour qu'on aille vite, l'État a eu la volonté de prendre le temps pour discuter, je les condamne pas parce que c'était important de pouvoir discuter, mais il y a un moment, faut avancer. Donc le processus institutionnel et de révision de la Constitution a été lancé, où finalement les non-indépendantistes ont fait une concession, puisque nous on partait de 3 ans, l'État a proposé 7, on s'est retrouvé à 7 plus 3, 10. Donc finalement, on fait une concession sur le dégel du corps électoral. Mais on revient à ce qui avait été prévu par l'accord de Nouméa, parce que c'est ce qui permettra de le faire voter de manière la plus facile ou la moins difficile, au choix, au Sénat et à l'Assemblée nationale, et aussi ensuite au Congrès de Versailles. Où je reste positif et même optimiste, c'est que le Sénat l'a déjà adopté une première fois à plus des 3/5. C'est ce qu'il faudra au Congrès de Versailles. On voit qu'aujourd'hui, le travail qui est fait au Sénat par Georges Naturel, à l'Assemblée nationale par Nicolas Metzdorf, est en train de payer puisque les groupes se positionnent pour l'instant et pour le moment très favorablement sur le dégel du corps électoral, qui est quelque chose de, qui est quelque chose de normal. Ensuite, que les indépendantistes soient contre le dégel du corps électoral, c'est à la fois normal et à la fois un aveu de faiblesse. Parce que, normal parce qu'ils considèrent qu'aujourd'hui, ils président plusieurs institutions et que s'il y a un dégel, ils ne vont plus présider ces institutions-là. Donc, qu'ils soient contre, pourquoi pas. Mais c'est un aveu de faiblesse de leur part. Parce que moi, je ne considère pas naturellement que les gens qui vont rentrer dans le corps électoral vont voter majoritairement pour nous aux prochaines élections provinciales. Il va falloir aller les convaincre. Il va falloir aller dire c'est quoi notre projet de société. C'est quoi le projet qu'on porte pour la Nouvelle-Calédonie. C'est quoi le projet inclusif qu'on porte pour la Nouvelle-Calédonie. Et je crois qu'ils sont un peu fainéants pour aller essayer de les convaincre. Mais nous, en tout cas, on va essayer d'aller les convaincre le plus largement possible.
Enfin, vous dites qu'ils sont contre le dégel. C'est plus que ça. Ils exigent aujourd'hui le retrait de la loi constitutionnelle. Est-ce que c'est quelque chose dont vous parlez avec les membres du gouvernement indépendantiste ou est-ce que vous ne parlez vraiment pas de tout ce qui est en politique ?
Si, on en parle. Enfin, le gouvernement n'est pas là pour parler d'avenir institutionnel, mais c'est quand même un endroit où on se parle entre indépendantistes et non-indépendantistes, où chacun on a ses convictions. Et moi, je ne reprocherai jamais à un indépendantiste de rester indépendantiste. C'est l'histoire de chacun, l'histoire d'une famille, d'un clan qui est comme ça. Mais aujourd'hui, il faut que la Nouvelle-Calédonie elle avance. On a trop attendu. On ne peut pas avoir une Nouvelle-Calédonie qui est fermée sur elle-même, où on dit aux gens qui ne peuvent pas voter. Ensuite, est-ce qu'il faut prendre en compte ce qui a été fait dans les différents accords, c'est-à-dire une prise en compte de l'identité kanak, mais on ne revient pas dessus. C'est-à-dire que j'entends qu'on est contre les kanaks, qu'on est contre les indépendantistes, on est contre rien du tout. Enfin, on a été contre l'indépendance et on a voté contre l'indépendance, mais on n'est pas contre des personnes. On a même été jusqu'à dire qu'on était favorable à un droit à l'autodétermination, à définir de manière lointaine mais on ne va pas dire aux indépendantistes d'arrêter d'être indépendantistes. Par contre, ils peuvent comprendre que les Calédoniens ont voté, avec en plus des boulets aux pieds, de restriction du corps électoral, trois fois non à l'indépendance, que maintenant on souhaite avancer et on souhaite construire vraiment un projet de société qui est pour tout le monde, qui est pas seulement pour certains, mais un projet qui est en capacité de nous rassembler sur l'essentiel. Je lisais il y a quelques jours le discours de Jacques Lafleur en 1977, au moment de la création du RPC, où il avait évoqué l'idée de faire un Paris calédonien. Enfin, l'histoire se répète encore une fois, je pense, aujourd'hui. J'espère qu'on ne retombera pas dans d'autres moments de l'histoire qui ont été sombres pour la Nouvelle-Calédonie. Mais ce Paris calédonien, il faut qu'il soit lancé. On doit avancer ensemble. On n'a pas d'autre choix que d'avancer ensemble aujourd'hui.
Attendant, une manifestation est organisée demain par les loyalistes et le Rassemblement en faveur du dégel du corps électoral. La CCAT organise, elle, une contre-manifestation contre le dégel du corps électoral. Comment ça va se passer? Comment est-ce que vous voyez les choses? Et est-ce que vous trouvez, est-ce que vous craignez une confrontation de ces opinions?
Si c'est une confrontation des opinions, c'est pas grave. Si c'est une confrontation des personnes, c'est plus grave. Mais je suis confiant sur le fait que chacun a appelé à ce que ces manifestations se passent bien. Il y a déjà eu des manifestations par le passé de gens qui pensaient différemment. Nicolas Metzdorf l'a dit sur votre antenne ce matin, on sera sur des horaires qui ne seront pas forcément les mêmes, on ne se croisera pas, on exprimera quelque chose de différent. Il y a un dispositif de sécurité qui permettra de garantir le fait que chacun puisse venir avec sa famille, que chacun puisse exprimer ce qu'il doit exprimer. Mais cette manifestation de notre côté, elle a été lancée par les loyalistes et par le Rassemblement. Enfin, on a eu l'initiative de lancer cette marche, mais cette marche, elle appartient à personne. Cette marche, c'est chacun doit y aller pour faire passer le message qu'il a envie de passer. Et le message qu'on a aujourd'hui envie de faire passer, c'est que c'est cette Nouvelle-Calédonie qui avance, c'est cette Nouvelle-Calédonie cette majorité calédonienne qui se tait et qui a envie qu'on arrive à construire, qu'on arrive à construire ensemble. Et ça, je crois que c'est important de le montrer demain. C'est toute ethnie confondue. Il ne faut pas que ce soit des marches identitaires. Enfin, il ne faut pas qu'il y ait des discours qui dépassent les pensées qu'on peut avoir.
Vous participerez, vous, à cette manifestation?
Bien sûr, mais enfin, je crois que c'est important de pouvoir se montrer en masse demain que la Nouvelle-Calédonie qu'on représente, c'est une Nouvelle-Calédonie qui souhaite avancer, c'est une Nouvelle-Calédonie qui souhaite vivre ensemble, c'est une Nouvelle-Calédonie qui a voté pour... qui a voté pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie dans la République, mais qui ne rejette pas l'autre. Enfin, on est, je le disais tout à l'heure, on est condamnés à vivre ensemble. On a un territoire qui est exceptionnel. On a un territoire qui a un potentiel incroyable. On a un territoire avec une jeunesse qui a envie de se projeter, une jeunesse qui est... qui est grandement métissée aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie et qui a envie que la question idéologique... On a voté français, on est français, on restera français, mais on ne critique pas ceux qui sont pour l'indépendance. On critique les excès de ceux qui sont pour l'indépendance. Il y a des propos dans la CCAT qui sont inadmissibles et qui sont racistes. Et ça, il faut aussi le dire. Quand je vois les menaces de mort qui ont touché un certain nombre de responsables politiques, et même chez eux. Enfin, quand Louis Mapou prend position pour le pacte nickel et qui voit son nom affiché sur des murs en disant qu'il va prendre une balle, c'est inadmissible. Et j'aimerais bien entendre certains responsables indépendantistes de dire que c'est inadmissible d'avoir des menaces de mort sur des responsables non indépendantistes. Mais bon, on n'est pas encore là.
Christopher Gégès, membre du gouvernement, merci d'avoir accepté votre invitation.
Merci à vous.